bienvenue pour ce premier numéro du Zoom politique, d'habitude intégré à Présidence, mais cette semaine indépendant, pour revenir avec vous en peu de temps sur l'actualité politique de ces derniers jours. Le chiffre de la semaine, c'est 6,5 millions. 6,5 millions d'euros, c'est le coût des vœux de Nicolas Sarkozy en janvier 2012, selon l'enquête du Canard Enchaîné, fondée sur des rapports de la Cour des comptes. 11 cérémonies de vœux décentralisées, 5 réceptions à l'Élysée, 2 émissions de télévision, Nicolas Sarkozy a été très actif en janvier et n'a oublié personne. Parlementaires, magistrats, représentants des religions, enseignants, militaires, agriculteurs, chefs d'entreprise, etc. Nicolas Sarkozy était sur tous les fronts. Pour la 4e année consécutive, Nicolas Sarkozy a organisé des vœux décentralisés. En 2009, il y en avait eu 5. En 2012, le chiffre a doublé, presque, avec 11 cérémonies de vœux. Coût moyen de ses prestations, hors transport, chiffre le Canard Enchaîné, 17 000 euros. En 2010, la facture a grimpé à 45 000 euros la cérémonie, toujours sans les déplacements. Et le Canard Enchaîné estime que cette année, en l'absence de chiffres officiels, mais selon son enquête, les frais pour 2012 seraient de 50 000 euros par cérémonie, soit donc, si on multiplie par 11, 550 000 euros au total. À cela, il faut rajouter les frais de transport qu'implique la décentralisation de l'événement. De l'avion officiel à l'avion de secours, en passant par les vols spéciaux affrétés par les journalistes et pris en charge par l'État, le coût de transport de ces vœux décentralisés sont très élevés. Pour 10 de ses allées et retours en province, a indiqué le Canard, Sarkozy a utilisé un Falcon 7X, soit une vingtaine d'heures de vol au prix unique de 5 000 euros. Pour se rendre en Guyane, par contre, il est monté à bord de son Airbus A330, soit une quinzaine d'heures de vol facturées 20 000 euros l'unité. Le montant total des déplacements atteint donc 400 000 euros, chiffre qu'il faut doubler si on ajoute le coût du SPER, c'est-à-dire l'avion de secours, et celui affrété pour les journalistes. Ça fait donc 800 000 euros. Mais en plus de tout cela et de ces chiffres qui sont fondés sur les précédents rapports de la Cour des comptes qui avaient chiffré le coût des déplacements en avion du président, il faut rajouter la plus grosse dépense qui est liée à la sécurité du président, dont la facture a été estimée par le Canard d'après le livre de René Dossière intitulé « L'argent de l'État » où le député a mené l'enquête et a noté qu'en général, 1000 policiers et gendarmes étaient mobilisés une douzaine d'heures pour chacun des déplacements de Nicolas Sarkozy, soit 450 000 euros la prestation. Pour 11 cérémonies de vœux, calculé, ça fait 4,9 millions d'euros. On additionne tout. Le total, le compte est bon, 6,5 millions d'euros. Dans la rubrique « Insolite mais vrai », les conseils de Stéphane Hessel à Eva Joly, Georges Tron qui parle des femmes et Arnaud Montebourg qui fâche Aragon. Froide, stricte, coincée, sans charisme, loin des Français, inaudible, absente. Rarement candidat à la présidentielle aura été aussi impopulaire qu'Eva Joly. Pourtant, après le succès des européennes, après le renouveau des préoccupations écologiques chez une majorité de Français, l'ancienne juge anticorruption, sortie victorieuse des primaires de son parti l'été dernier, devant le MacGyver du reportage écolo, le médiatique Hulot qui n'en finit pas de se faire des shampoings Ushuaïa au lait de jojoba pour se remettre de sa déconvenue, Eva Joly était promise un bel avenir. Mais avec 2 à 3% d'intention de vote dans les sondages, la campagne de la candidate d'Europe Écologie Les Verts peine à décoller, pour user d'un euphémisme. Même le meeting du samedi 11 janvier à Roubaix pour lancer sa campagne n'y a pas réussi. Devant 1200 sympathisants qui ont applaudi poliment pendant 3 minutes, à la fin du meeting, avant de se séparer, elle avait égrené, sans véritable ligne directrice, ses propositions avec une voix monocorde. Le spectre de la déconfiture voinée refait surface, et ils sont peu, au sein de son propre parti, à s'en émouvoir. Peut-être y trouvent-ils leur intérêt personnel. Peut-être. Sauf qu'en attendant, c'est le discours écologique qui est sacrifié sur l'autel des vanités et des polémiques répétées. Qui pour parler du nécessaire changement de mode énergétique à moyen terme devant la fin annoncée des énergies fossiles au lieu de se focaliser sur le marronnier qu'est le nucléaire ? Sortira, sortira pas ? Qui pour proposer une solution concrète pour le secteur de la pêche alors que la préservation des stocks est nécessaire mais qu'elle plonge les pêcheurs français, certainement trop nombreux dans le contexte actuel, dans une situation de précarité difficilement supportable ? Qui pour évoquer sérieusement l'agriculture, la protection du littoral, l'industrie verte sans tomber dans les traditionnels clichés ? Et si la grande absente de la campagne, c'était justement l'écologie ? De la campagne d'Eva Joly, que retient-on pour le moment ? Ses lunettes rouges ? Son accent ? Ses propositions que la candidate elle-même juge subversives et que d'aucuns, pour rester poli, jugent fort peu à propos, les 32 heures, la fin du 14 juillet ou encore la création d'un jour férié pour les religions juives et musulmanes. Le pire, c'est certainement que pour les Français, la candidate la plus crédible en matière d'environnement, c'est Corinne Lepage. Et ça, c'est quand même un gros échec de la part d'Eva Joly. Dans ce contexte, Stéphane Hessel a donné un drôle de conseil à la candidate écologique. La scène se déroule le 30 janvier à l'Odéon à Paris, où l'écrivain reçoit le prix Mishkin. Vient le temps du discours du lauréat qui, en plein milieu de son papier, s'adresse directement à Eva Joly, présente au premier rang, et lui de dire « Je vous en prie, madame, renoncez à la présidentielle et passez directement aux législatives. » Insolite mais vrai toujours, Georges Tron, député maire UMP de Draveil, ancien ministre, mis en examen pour viol et agression sexuelle en réunion qui s'exprime lors d'un colloque sur les statuts de la femme entre tradition et modernité. Un mauvais canular ? Non. C'est pourtant bien ce qui s'est passé mi-janvier dans la MJC de Ris-Orangis lors d'un colloque organisé dans sa circonscription par l'Amitié judéo-musulmane de France qui ne manque donc pas d'humour. Arnaud Montebourg, en nommant son mouvement lancé le samedi 4 février « La Rose et le Réséda », titre du célèbre poème d'Aragon, n'imaginez certainement pas lire d'Aragon, ou plutôt de son exécuteur testamentaire, qui n'exclut pas d'aller devant les tribunaux. Aragon n'est pas dans le domaine public, a-t-il déclaré, il n'est la propriété de personne et d'aucun parti, et l'exécuteur testamentaire d'ajouter « Si M. Montebourg veut s'inspirer des écrits d'Aragon, j'en suis heureux, mais le titre d'une œuvre est protégé par le droit d'auteur. » Vous avez reconnu le jingle, on termine comme d'habitude ce zoom politique avec l'alerte rouge de la semaine et c'est Claude Guéant qui fait retentir l'alarme dans le studio. Claude Guéant est, j'ai envie de dire, pour l'ensemble de son œuvre. C'est vrai qu'en ce moment, le ministre de l'Intérieur ne chôme pas. Tout le monde a entendu parler de sa désormais tristement célèbre phrase prononcée le samedi 4 février lors d'un colloque organisé par l'association étudiante de droite, UNIE, à l'Assemblée nationale et réaffirmé le lendemain sur France Inter « Toutes les civilisations ne se valent pas ». Bien que ne visant, je cite, « aucune culture en particulier », le ministre a tout de même fourni deux exemples se reportant à l'islam, la question du voile intégral et celle des prières de rue. Au regard des valeurs que porte la France et que, je crois, a affirmé Claude Guéant, porte tous les partis républicains en France, il y a des civilisations que nous préférons. Pour nous, tout ne se vaut pas. Claude Guéant a ensuite conclu en haranguant une dernière fois ses adversaires politiques. Est-ce que le Parti Socialiste trouve qu'une civilisation qui a servi la femme, qui bafoue les libertés individuelles et politiques, qui permet la tyrannie, est une civilisation qui a la même valeur que la nôtre ? La gauche a alors réagi vivement. Le socialiste Harlem Désir a traité Monsieur Claude Guéant, de rabatteur de voix du Front National, quand Cécile Duflot, elle, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, qualifiait la phrase du ministre d'abject et de retour en arrière de 3 siècles, rien que ça, tandis que Jean-Luc Mélenchon fustigeait une xénophobie d'État. Marine Le Pen, elle aussi, s'est attaquée au ministre. « Taisez-vous, monsieur Guéant », a-t-elle déclaré, « avec vos enfumages perpétuels, vous avez fait la même chose que la gauche, avec une main molle en toutes circonstances. » On voit bien qu'il critique, mais pas pour la même chose quand même. Hein. Donnant dans la surenchère, le député socialiste de Martinique, Serge Letchimini, a suscité un tollé à droite en évoquant dans l'hémicycle les camps de concentration et le régime nazi, à propos de la phrase du ministre de l'Intérieur, provoquant ainsi le départ de l'hémicycle du gouvernement et des députés de la majorité. Dans la majorité, justement, la levée de bouclier a été générale, à l'exception près d'Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin ou encore François Fillon. Levée de bouclier pour défendre les propos de Claude Guéant. Nicolas Sarkozy le premier, fustigeant une polémique ridicule à propos d'une déclaration de bon sens du ministre de l'Intérieur. Alors, pour clore cette polémique définitivement, laissons la parole au sociologue et philosophe Edgar Morin et à des extraits de sa tribune publiée dans Le Monde peu de jours après la polémique. La France doit être considérée dans son histoire non seulement selon les idéaux de liberté, égalité, fraternité promulgués par sa révolution, mais aussi selon le comportement d'une puissance qui, comme ses voisins européens, a pratiqué pendant des siècles l'esclavage de masse, a, dans sa colonisation, opprimé des peuples et dénié leurs aspirations à l'émancipation. Il y a une barbarie européenne dont la culture a produit le colonialisme et les totalitarismes fascistes, nazis et communistes. On doit considérer une culture non seulement selon ses nobles idéaux, mais aussi selon sa façon de camoufler sa barbarie sous ses idéaux. Nous pouvons tirer fierté du courant autocritique minoritaire de notre culture, de Montaigne à Lévi-Strauss en passant par Montesquieu, qui a non seulement dénoncé la barbarie de la conquête des Amériques, mais aussi la barbarie d'une pensée qui appelle barbares les peuples d'autres civilisations. Citation de Montaigne. Il ne s'agit pas d'un relativisme culturel, mais d'un universalisme humaniste. Le faux universalisme, a continué Edgar Morin dans cette tribune du Monde, consiste à nous croire propriétaires de l'universel, ce qui a permis de camoufler notre absence de respect des humains d'autres cultures et les vices de notre domination. Le vrai universalisme essaie de nous situer en un métapoint de vue humain qui nous englobe et nous dépasse, pour qui le trésor de l'unité humaine est dans la diversité des cultures, et le trésor de la diversité culturelle dans l'unité humaine. Mais si l'alerte rouge s'est faite entendre dans le studio pour honorer Claude Guéant, pour l'ensemble de son œuvre, c'est parce que le ministre, qui décidément ces derniers temps est en forme, avait déclaré quelques jours plus tôt, avant cette phrase sur les civilisations, aux Parisiens, dans un tout autre registre, que la Corrèze, c'est la Grèce de la France. Et de continuer, c'est le seul exemple de collectivité qui est géré, puisqu'il n'a pas été au gouvernement, ce « il », vous avez compris, c'est évidemment François Hollande. Or, la Corrèze a-t-il continué à présenter un plan de redressement au gouvernement? On lui a apporté 11,5 millions d'euros. Et puis, comme le fait le FMI, on lui a demandé de prendre des mesures de redressement. Il a alors, toujours François Hollande, augmenté les tarifs des transports scolaires, celui des cantines, etc. Voilà l'exemple de gestion de M. Hollande. Gérard Bonnet, vice-président du Conseil général de Corrèze, a, le lendemain, reconnu que la Corrèze était la collectivité départementale la plus endettée de France. Mais il a ajouté, ce que le ministre de l'Intérieur n'a pas précisé, c'est que la droite en est responsable. En 2008, quand la gauche est devenue majoritaire au Conseil général et que M. Hollande en a été élu président, a-t-il continué, le département avait déjà et de très loin la dette la plus élevée par habitant, a expliqué le vice-président. Selon le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes du Limousin, si ça existe, cette dette était fin 2008 de 1164 euros par habitant, soit le triple de la moyenne nationale. Alors oui, au pays de la caricature outrancière et des polémiques qui ne sentent pas très bon, définitivement, Claude Guéant est le roi. C'est la fin du Zoom politique. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas, gardez l'esprit critique.